TLC.
La taverne.
Ciao.
La taverne.
Let's go.
La taverne. La taverne.
Dans les coulisses.com.
Déjà une quatrième fois où on a la chance de jaser, qu'on s'installe dans notre taverne avec le chum DLC. Salut!
Hey, salut, Carl!
Comment ça va?
Bon, un petit peu enrhumé. Mettons que je me sens soit comme dans une taverne dans le temps qu'on exclut la personne qui parle, qu'on avait le droit de fumer dans les tavernes, et que si j'avais pas autant de plaisir à faire cette activité-là, je t'aurais peut-être callé off aujourd'hui, mais... voilà, je suis au rendez-vous. Si j'éternue 3-4 fois, donnez-moi un break. Tu sais, ça sera pas 8-10 fois, mais 2-3 fois, je pense que j'ai le droit d'aller mourir.
Mais de toute façon, quand on fait ça, on le fait pour triper, parce que honnêtement, si je regarde chez nous cette semaine avec les, tu sais, la période d'hiver où tout le monde a la grippe, puis l'après-fête où même les enfants tombent malades, là, ça devient une organisation incroyable. C'est tough, hein?
Tes patrons sont pas toujours, tu sais, ils essaient d'être compréhensifs, mais eux, ils ont une business à faire rouler. Là, maman rate la job, là, maman va arriver plus tard, là, t'as la garderie, l'école, en tout cas. Voilà, on se plaindra pas, il y en a qui ont pire que nous, mais c'est ça, c'est le dur mois de janvier avec nos moins 30, avec l'effet du vent.
OK, on va commencer par jaser du fameux Canadien de Montréal qui, by the way, ce soir, va affronter les Red Wings de Détroit. J'espère pour les fans du Canadien, moi qui n'ai pas un grand fan du Canadien, ça me dérange pas ben, mais est-ce qu'on va avoir une leçon de hockey comme on a eu à Pittsburgh cette semaine?
Ça serait très surprenant. Écoute, les Wings gagnent un match sur deux à peu près présentement. Sont en milieu de peloton dans l'Est. C'est plus les Red Wings qui étaient. Il y a des joueurs blessés. Alfredson devrait jouer. Il y a 2-3 autres joueurs blessés. Le gardien Howard est blessé. Franzen est blessé. Datsyuk est blessé. On sait pas qui va jouer, qui jouera pas. Donc, c'est plus la même équipe qu'avant. Lidstrom est à la retraite. Mais c'est toujours Mike Babcock, le coach. Mm-hmm. Et on a toujours un système efficace chez les Red Wings. Et c'est quoi qui est le plus difficile pour le Canadien? C'est de battre une équipe qui joue un système et qui le respecte, ce système-là. Donc, est-ce qu'on va en dégeler ou non? Je le sais pas. Les chances sont moins grandes qu'à Pittsburgh. Mais ça serait le moment de sortir les armes chez les Red Wings.
C'est quand même particulier la façon que le calendrier est fait, parce que c'est la première fois cette année que les Canadiens affrontent Détroit, là. On a une bonne partie de la saison de passé et on est dans la même conférence maintenant.
Ah, ça avait été long aussi pour le match contre les Bruins.
Long.
Ah, exact. C'est des rivalités, mais en même temps, c'est un calendrier olympique. On joue souvent 4 matchs par semaine au lieu de 2 ou 3. On joue souvent des samedis et dimanches ou des vendredis et samedis, des 2 matchs en 24 heures. Donc là, à un moment donné, tu sais, ceux qui travaillent à la LNH, ben, regardent ça puis essayent de faire fitter ça un peu comme ils le peuvent. Et là, tu m'amènes sur un sujet. Du 7 au 23 février, si ma mémoire est bonne, il y a un break olympique. Donc, les formations de la LNH ne pourront pas transiger, envoyer des joueurs au balotage, etc. Donc, on va avoir un break-là. Là, ça va être intense jusqu'à ce break-là. Est-ce qu'il y aura des transactions? Après ça, intense, les joueurs doivent se rendre en Russie, doivent disputer des matchs, doivent être loin de chez eux. Et là, ils reviennent 24, 48, 72 heures et boum, on recommence tout de suite la fin de la saison. Ce sera essoufflant et ce sera surtout très essoufflant pour des équipes comme le Canadien qui sont petites et qui ont beaucoup de représentants. Le Canadien en a 8 à Sochi. Donc, c'est quelque chose, ce calendrier-là, en 2013-2014.
C'est un gros calendrier. Puis là, tu parlais de transactions, puis on va arriver à la période où on pourra plus en faire, puis on va retomber dans une période où on va arriver au printemps, puis il va y avoir 50 émissions spéciales pour parler des transactions. Mais c'est quand la dernière grosse transaction majeure qui a vraiment marqué les fans de hockey? De mémoire, j'en vois pas ou j'en oublie dans les dernières années, mais on n'a plus de grosses transactions comme dans le temps où des joueurs hyper importants d'une formation changeaient comme ça en milieu d'année pour une autre place, puis il y avait des joueurs qui transigeaient, puis on dirait qu'il y avait des mouvements. Ces mouvements-là, on les voit plus dans la Ligue nationale de hockey d'aujourd'hui.
T'en as beaucoup moins à cause du plafond salarial. Ouais. T'en as quand même quelques-uns rarissimes, mais ces mouvements-là se font souvent à l'entour du draft en juin, l'été. Mais il y en a quand même quelques-uns dans la saison. Tu sais, il y a quelques joueurs importants qui ont changé d'adresse. On pense à Gaborik, Jack Johnson, Jeff Carter, Mike Richards. Tu sais, il y en a eu.
Ouais, c'est les dernières qu'il y a eu. Les dernières importantes qu'il y a eu.
Il y en a pas beaucoup, là.
Est-ce que ça remonte à l'échange d'Éric Lindros avec les Nordiques de Québec?
Ouais, écoute, t'en as beaucoup. Il y en a eu depuis ça, là. Mais, c'est quand même quelque chose d'intéressant. Tu regardes le Canadien, tu dis, bon, ben, regarde, on va regarder les transactions que Marc Bergevin a fait ou Pierre Gauthier. Puis la dernière grosse, c'est Tomáš Kaberle. Ça nous en dit beaucoup.
Est-ce que t'as dit une grosse transaction? Tu peux pas dire une grosse transaction puis Kaberle dans la même phrase.
Non, mais c'est un gros contrat, ça a été...
Il est où, lui? La... Fais-tu des patates à quelque part?
Ah, il y a un différentiel négatif en République tchèque. La République tchèque, c'est moins fort que la Finlande puis que la Suède et que la KHL, donc t'es en dessous de ça. Et le gars a réussi à avoir un différentiel négatif quand même, a même pas un point par match, donc c'est terminé pour Caberlé, là, je reprendrai personne. Mais la donnée, c'est que, comme on avait Caberlé, on avait juste le droit à deux rachats par amnistie, c'est-à-dire qu'ils comptent pas comptablement parlant sur la liste de paye du Canadien. Et vu qu'il a fallu racheter Caberlé, ben t'as pas pu racheter René Bourque, t'as pas pu racheter, c'est n'importe qui, le name it, que ce soit Markov, Gianta, je veux dire, c'est impossible. La réflexion n'avait même pas lieu d'être. On peut pas racheter d'autres, on a racheté Gomez et Caberlé. Alors, c'était quand même une grosse transaction. Non, mais je viens de me répondre à moi-même. La transaction Gomez était la dernière grosse transaction.
Regarde, Gomez et grosse transaction ne peuvent pas être dans la même phrase encore une fois. C'est impossible. C'est impossible.
Ryan
McDonough. OK. Non, mais ouais, si on regarde aujourd'hui. Mais à l'époque, on n'était pas sûr.
Non, mais... Il y avait beaucoup de gens qui étaient optimistes. Le Camilleri avait signé le lendemain. Gianta avait signé le lendemain. C'était... Il y avait quand même Spacek qui avait signé cette année-là. Il y avait des optimistes, mais on dirait qu'on a toujours le même Canadien depuis cette époque-là. Toujours un Canadien qui est petit, toujours un Canadien qui est pas robuste, toujours un Canadien qui doit miser sur son gardien de but et ses unités spéciales pour gagner. Ça marche parfois, ça marche de moins en moins en deuxième moitié de saison. Les petits joueurs s'essoufflent, les unités spéciales passent de moins en moins de temps sur la patinoire. Donc le Canadien semble être une équipe de début de saison depuis X années, et plus la saison avance. Comme l'année passée, comme ça semble malheureusement être le cas présentement, s'essouffle quand la deuxième moitié de la saison s'entame.
Demain matin, là, on se met dans la peau des gens qui travaillent pour le Canadien de Montréal. Admettons, demain matin, là, moi, je suis Michel Therrien. Il faut que j'essaie de faire quelque chose avec mon équipe. Puis là, je regarde devant moi, je regarde les cartes que j'ai, je regarde de quelle façon je peux les mélanger. Puis à soir, je te parle, là, j'ouvre une grosse bière, puis je te dis, « Hey, si mon DG en haut m'aide pas bien vite, là, je sais plus quoi faire. Je sais plus qu'est-ce que je vais... mettre en place ou qui je vais aller chercher ou qu'est-ce que je pourrais avoir comme solution pour dire, hey, là, on va relancer l'équipe puis on va entamer une deuxième moitié de saison qui va être aussi bonne que la première. Disons, moyennement bonne.
Moyennement pour se maintenir là, parce que tu regardes chaque segment de 10 matchs, le Canadien est toujours moins bon que le segment d'avant. Ah, donc, ça annonce rien de bon pour la fin de la saison. Mais si t'es Michel Therrien, t'es rendu aux solutions, aux dernières solutions, solutions de dernière heure, aux solutions B, C et D. Tu sais, t'as si Emeline et Diaz dans un match important. T'as mis Subban...
Pour faire jouer Bouillon et Murray.
Exactement. Et là, t'as mis Subban avec Murray. Pour ce soir, ça risque d'être une des deux paires, là, c'est pas encore confirmé. Mais t'es rendu à des solutions comme ça. T'envoies Heller à l'aile gauche. Moi, ça fait longtemps que je veux le voir à l'aile gauche. Présentement, c'est pas concluant, mais t'es rendu à des solutions comme ça, le Bournival au centre, Brière, on le ramène au centre, fait que t'essayes de mêler les cartes, mais ça reste quand même des cartes qui sont pas si fortes que ça. Michel Therrien, comme tu le dis, se demande, est-ce que je suis vraiment le seul responsable? Oui, il a sa part de responsabilité, oui, il doit être capable de suturer le maximum de ses joueurs, c'est de sa faute si les gars sont pas préparés. Mais d'abord et avant tout, c'est la faute à Marc Bergevin si l'équipe est en... Là, on se répète. C'est la faute à Marc Bergevin si l'équipe est encore une fois trop petite, s'il manque de poids et de talent le long des rampes, si la brigade défensive du Canadien, elle est correcte, là. Il y a des très bons défenseurs. Il y en a d'autres qui ont de la misère à percer une formation ailleurs. Et c'est là que tu montes Nathan Beaulieu pour le tester. C'est là que tu remontes Louis Leblanc. Tu y vas avec qu'est-ce qui te reste de solution dans tes mains. Puis, on a vu à Pittsburgh ce que ça a donné. Espérons que face aux Red Wings, face aux Capitals, ça donnera un autre résultat.
Louis Leblanc, là, je le regarde aller, puis j'ai beau essayer de me dire, « Hey, ce gars-là a été un choix repêchage. Parce que c'est un Québécois, les gens ont fondé quand même pas mal d'espoir au début. » Mais j'ai pas l'impression qu'il va faire le saut à tout jamais dans la Grande Ligue. Je pense que c'est un gars qui va finir Ligue américaine, peut-être aller jouer en Europe. Il fera jamais vraiment sa place dans la grosse Ligue nationale de hockey. Il manque du vouloir, puis je suis pas sûr que l'attitude est là pour en faire un gagnant, d'en faire un gars qui, quand il va être rappelé en haut, va performer puis va prendre sa place.
Je te confirme qu'il y a des inquiétudes, il y a des problèmes avec Louis Leblanc au niveau de l'attitude, au niveau du côté hors glace. Il y en a eu avec beaucoup de joueurs repêchés en première ronde dans l'histoire du hockey. C'est pas le premier joueur envers qui une équipe a des attentes et que ces attentes-là ne se matérialisent pas. En même temps, Leblanc est un choix populaire, le repêchage est à Montréal, fallait qu'on flatte un peu les fans du Canadien. Je crois pas beaucoup en Louis Leblanc. Parallèlement, t'as Nathan Beaulieu, qui vit à peu près le même genre de truc, choisi en première ronde, aussi lié à certains problèmes hors glace. Lui, il est-tu à Montréal en ce moment pour qu'on teste ce qu'il est capable de prendre, pour qu'on évalue l'option d'échanger Andrei Markov, parce que en octobre et en novembre, Marc Bergevin a dit « Je ne changerai pas Andrei Markov si l'équipe est dans une place pour les séries. » Ça, c'était clair, noir sur blanc, et c'était pas juste une parole publique, c'était la ligne directrice, la mission de Marc Bergevin. Est-ce que ça a changé? Est-ce que Markov s'essouffle et on le voit, nous, Marc Bergevin doit le voir? Tu sais, qu'est-ce qu'on fait avec Markov? Est-ce que le destin de Nathan Beaulieu, présentement, tu sais, lui, il dit « Ah, je suis ici, c'est mon rappel, c'est mon bon rappel, faut que je prenne ma chance plus que les autres, c'est pas pareil comme les autres fois. » Est-ce qu'il s'est fait dire « Prouve-toi le kid parce que tu vas peut-être avoir du temps de glace l'année prochaine » ou vers la fin de la saison? Je lance des hypothèses, mais ça se pourrait très bien.
Hey, comme tu l'écrivais en début de semaine là sur Markov, combien ce gars-là, si on veut le garder à Montréal, va avoir comme contrat? Et est-ce qu'on doit encore payer pour un joueur comme ça qui il n'y a pas 40 ans, il y en a 35, André Markov, si je me trompe pas, là?
Ouais, 35 ou 36, c'était sa fête là dernièrement, okay. André Markov.
Mais je suis pas sûr, il y a pas les genoux en grande santé, c'est pas le gars qui va nous donner encore 4 grosses saisons. Je pense pas, à moins que je me trompe, que ce soit un miraculé, puis il y a des membres à la Robocop qui soient capables d'être relancés. Il n'y a pas de mauvaise saison, sauf qu'il vieillit, puis il y a des soirs où tu le regardes, puis c'est rapide. C'est rapide autour de lui. 100%
d'accord, mais si Daniel Brière, à 38 ans, a eu 4 millions par année,
ouais.
Il n'y avait pas juste le Canadien qui ont fait cette offre-là. Sergei Gonchar, 5 millions par année. Quand tu es rendu à un certain statut, à un certain âge, il y a toujours un
il y a un DG qui va payer.
C'est ça, un DG. J'allais dire un cave, mais on va dire un DG.
Non, tu peux mettre les
on va dire les vrais mots.
Il y en a quelques-uns là, qui, des caves, ont travaillé pour les Islanders de New York. Là.
Ah, Islanders, Flyers, Oilers, tu sais, c'est toutes des équipes. Les Capitals pourraient être tellement intenses dans ce dossier-là pour réunir Markov et Ovechkin. André Markov, lui, a l'impression que le Canadien ne lui offre pas de contrat à sa juste valeur en ce moment. Et ça, c'est d'une source extrêmement solide. La question que je me suis posée après, et j'ai essayé de savoir, quelle est la juste valeur d'André Markov? Si c'est pas un marché d'autonomie complète où tout le monde peut faire des offres le 1er juillet, Markov signe à 4 millions, 4,5. C'est un défenseur vieillissant, 2 ans. À peu près le contrat Brière, tu sais, grosso modo. Mais là, c'est un gars qui a accès à toutes les équipes de la LNH. À toutes les équipes de la KHL, c'est un russe, donc l'option KHL est plus intéressante pour lui que pour Vincent Lecavalier. C'est pas son option A, là, mais lui veut faire de l'argent, il sent que c'est son dernier contrat. Il adore Montréal, c'est vrai là, qu'il aime Montréal, il aimerait vraiment rester ici, il aime l'organisation, il aime la vie à Montréal, il est établi ici, mais ce qu'il veut, c'est l'argent. Il veut le payer à sa juste valeur. Et justement, c'est pas 4,5 sa juste valeur. Comme le marché est ouvert pour lui, sa juste valeur, c'est entre 5,75, son contractuel. Et ça va jusqu'à 6,5-7 millions. C'est ça. Puis surtout que le plafond augmente, puis Kesubin va faire 8-9 millions. Les joueurs vont tous faire plus d'argent. Il y a eu de l'inflation depuis ces années-là. C'est ça sa valeur sur le marché. C'est un marché de fou. Mais c'est un marché qui existe comme ça. Et pour l'instant, le Canadien semble être boqué à 5,75, 2 ans, selon ce qu'on me dit. Où on va se rendre dans les négos? Et où faut-il se rendre? Est-ce qu'on le veut, Markov, à ce prix-là? Est-ce qu'on veut un gars qui finit sa carrière ici? Tu sais, c'est beaucoup de questions.
Puis un gars comme Markov, comme la plupart des joueurs qui vont évoluer ou qui évoluent pour le Canadien, si t'es capable d'avoir un peu plus, si tu signes un contrat à Montréal, faut qu'il soit plus gros qu'ailleurs. Puis je m'explique, le seul mot, là, c'est l'impôt. Faut que tu gagnes plus cher à Montréal si tu veux en garder plus. Puis, veux pas, là, les joueurs, là, même si tu fais beaucoup d'argent, là, tu donnes 1-2 millions à l'impôt par année. Il n'y a pas personne qui veut ça. Là. T'as bien beau gagner le plus gros salaire du monde, là, tu veux pas ça.
T'as amplement raison. S'il y a un joueur chez le Canadien qui aime pas l'impôt québécois et canadien, c'est André Markov. Et tu dis 1-2, écoute, c'est un contrat de 7 millions.
Ah, la moitié!
Pas loin de la moitié, exactement. Tu sais, même si t'as des bons fiscalistes puis t'étales ton revenu dans une fiducie sur 10 ans, écoute, tu vas contourner un peu, mais tu vas te ramasser à payer 3,5 millions par année en impôts. Et quand tu te fais soigner, tu vas même pas au système public, tu t'en vas au système privé puis tu repayes encore. Puis tes enfants, ils vont même pas à l'école publique. Puis, tu sais, c'est fou être riche au Québec présentement. C'est complètement débile.
Tu peux pas l'être. Premièrement, tu vas être mal vu parce que de gagner beaucoup de sous au Québec, t'es un maudit crosseur. C'est même que les gens disent ça. Puis si un joueur de hockey parle pour l'impôt, hey, voyons, il gagne 6 millions par année, c'est pas grave s'il paie de l'impôt. Ben oui, il en donne la moitié. Hey, même que si tu donnes la moitié de ton salaire, personne veut ça. Là. Fait que André Markov non plus. Le gars se dit, en Russie, je pensais que c'était spécial, mais au Québec, c'est pire.
Ah, exact. Puis c'est pour ça, là, la Russie dépose des offres quasiment sans impôt. Donc, tu sais, la Russie dépose une offre de 4, 4.5, 5. Écoute, c'est plus payant qu'un 6.5 ici.
Ben oui.
Fait que c'est pour ça qu'il va évaluer l'option aussi. Il veut pas y retourner. C'est pas son option 1. Il veut vraiment, lui, vivre sa retraite à Montréal. Il aime la ville, etc. Pas nécessairement prêt à retourner en Russie. Il serait prêt, par exemple, à aller à Washington ou à Philadelphie ou etc. Faire quelques années là-bas. Si on aime ça, on reste là-bas. Puis si on n'aime pas ça, ben on revient à Montréal de notre retraite. On va toujours être bien vu ici. Tu sais, comme à Merlick en ce moment, qui est sur la rive sud, il est revenu vivre, là, il s'est fait une copine là-bas, puis il est tombé en amour avec la vie montréalaise. Tu sais, c'est une grosse question. Puis est-ce que tu vas en avoir pour ton argent avec André Markov? Jamais. C'est sûr non. Que non. Ça peut, tu peux pas en avoir pour ton argent.
Non.
Mais tu le remplaces avec quoi? Tu sais, c'est ça la grosse question.
Qui avec quoi, par qui?
Exactement. Bouillon, non. Diaz, non. Drew Whiskey, non. Emeline, non. Tu sais, 4,1 millions par année pendant 4 ans, le gars est sur le banc. Joue jamais à gauche, c'est un gaucher. Tu sais, Georges, non. Murray, oublie ça. Nathan Beaulieu, on est en train de le tester, je crois. Et semble clairement pas prêt à remplacer André Markov, mais c'est comme ton option, puis c'est pour ça que c'est lui qui est en haut, c'est pas Tenordi, puis c'est pas Patrin, même si on a besoin d'un droitier. C'est Nathan Beaulieu, puis on est en train de le tester, puis on verra, peut-être que le Canadien, il y a juste les fous qui changent pas d'idée, Benjamin ne peut pas échanger Markov, peut-être qu'il devra revenir sur sa décision, mais c'est pas son plan A.
Hey, je fais un petit aparté, je vais être en sujet pendant les prochaines secondes, parce que en ce par là, je suis en train de regarder mon fil de nouvelles Instagram où tu as les plus belles photos du monde. Donc, à part elle qui fait du surf, là, Alana Blanchard, que je vous conseille comme pour te suivre sur Instagram, c'est assez solide, là. Je regardais les images du côté du Yankee Stadium pour les genres de matchs qu'on a dans les stades qui s'en viennent. Puis en fin de semaine, t'as lui de Los Angeles que la NHL envoyait des images aussi. Ça va être particulier encore samedi soir à Los Angeles contre Anaheim, hein?
10h, heure de l'Est. Présentement, il fait chaud. Et là, l'autre côté, au Yankee Stadium, c'est rempli de neige. On annonce du froid pour la semaine prochaine. C'est la LNH. C'est des belles décisions un peu illogiques et irrationnelles. Tu sais, la LNH veut vendre son produit. Ouais.
Mais t'as-tu vu, on n'est pas... Ben, je sais pas, c'est juste ici, là. Remarque que ce qui se fait au Québec est pas pareil comme il se passe dans le reste du Canada puis ailleurs dans les médias. Mais il me semble qu'il n'y a pas beaucoup de couverture de ce que j'ai vu sur ces matchs-là. Tu sais, on en avait parlé une fois, on disait que, bon, la classique hivernale, oui, attirait, parce que c'était le premier événement de l'année. T'avais la série 24-7 du côté d'HBO qui attirait aussi, qui donnait un engouement autour de ça. Mais sa série-là, dans les stades, bon, on en parle, mais c'est un match comme les autres. Il n'y a rien de particulier. Même si Kiss va être là, je pense, by the way, samedi soir, là.
Écoute, j'en ai aucune espèce d'idée. Tu sais, tu me dis, tu sais, je suis le hockey, je suis un mordu de hockey, puis je sais même pas si Kiss va être là. Ça en dit beaucoup sur ce qu'on parle de cet événement-là. En même temps, c'est à 10h le soir, c'est en Californie, là, c'est loin d'ici, mais c'est ça. On veut vendre le hockey aux Américains. On s'y prend de cette façon-là. Mais, à l'inverse, t'as entendu le joueur de football, le Sherman, cette semaine, dire que dans la NH, ils ont même pas joué. Ils se sont bagarrés. Ils faisaient référence au match Canucks-Flames. c'est l'image de la LNH aux États. Puis, tant que tu vas continuer cette image-là, t'as beau faire un beau match là dehors au Yankee Stadium ou à Californie ou name it, là. C'est ton produit, la base, là, ce que tu vends comme matériel, là, c'est ça qui va aller chercher des fans. T'as beau mettre tout le glaçage autour, c'est ce que t'as dans le gâteau qui est important. Je suis pas certain que ça rejoigne tous les fans.
Tu parles de Sherman, puis on va revenir, mettons, on va prendre l'exemple, puis je sais que les comparaisons, c'est dur à faire, entre la NHL et la NFL. La NFL, quand tu regardes ça, je sais pas si tu as regardé un peu de football en fin de semaine passée.
Oui.
Avec le temps, on a peaufiné des choses, puis on a rendu... Tu sais, un match NFL en série, c'est toujours trippant. Le hockey aussi, j'ai rien contre ça. Je suis un tripeux de hockey, mais de plus en plus, je m'intéresse à la NFL parce qu'on a su faire évoluer le match et ce qu'on nous rend à la télé est supérieur à ce qu'on voit dans les autres sports. L'animation qu'on nous fait, tu sais, les lignes sur le terrain avec la façon maintenant qu'on est capable de voir les jeux sont où, il reste combien d'essais... On dirait que la Ligue nationale de hockey est tellement restée dans ses anciennes bottines qu'on n'est pas capable de suivre et d'offrir un produit télévisuel toujours divertissant. On n'est pas capable de nous amener, tu prends l'exemple d'RDS puis TVA, de nous mettre l'ambiance d'avant les matchs. On nous fait parler des Jocelyn Lemieux puis des gens qui sont inintéressants. Puis là, à un moment donné, on met le match, on met le feed, puis ils sont en train de mettre la rondelle. On n'a pas vu ce qui s'est passé avant. C'était un match important. On n'a pas vu l'ambiance qu'il y avait dans l'aréna. On n'est pas capable de nous livrer ça.
T'as amplement raison. Je ne sais pas quoi rajouter. Tu sais que je mise beaucoup sur la relève. J'aimerais que la relève prenne plus de place dans le domaine médiatique. On a encore annoncé hier la signature de Simon Gagné là, comme joueur analyste, après Théo, après Guillaume.
Hey, Simon Gagné, c'est la fin de sa carrière. Là, quand tu signes pour un média, ça veut dire que tu sais qu'il n'y a pas eu de contrat cette année. Il n'y aura pas d'offre l'an prochain non plus pour Simon Gagné. Là.
Ça ressemble à ça. En tout cas, les chances que Gagné, Théo et Guillaume aient un offre de contrat l'année prochaine sont assez minces. Peut-être un des trois, là, par la plus grande chance au monde. Je miserais pas là-dessus, là, mais ça sent vraiment la fin. C'est ça. Je fais partie de ceux qui aimeraient savoir de la place à la relève. Puis, j'étais un fan de boxe. Puis, je suis allé au combat Pascal Bouté.
Hey, comment c'était?
C'était très bien. La sous-carte était pas excellente. C'est pour ça, je pense, que les gens sont aussi déçus que ça du combat Pascal Bouté. 2-0 en sous-carte. Aucun vrai KO. Seulement des TKO. C'était une carte longue. Les combats allaient souvent à la limite. Il y avait pas de sortie explosive. Alors, quand le grand événement est arrivé, ben, surtout que ça a pas été le combat auquel on s'attendait, mais ça a quand même été un bon combat. Pascal a livré un match parfait ou presque. Mais il était un peu show-off, tu sais.
Ouais, mais un match parfait. Moi, de la façon que je l'ai vu, puis peut-être que j'ai pris trop de vin puis trop de Molson Canadien ce soir-là.
J'ai vu la photo sur Facebook. <très content. rire>
J'ai regardé ça puis je me disais un bout de temps, Pascal, il est tranquille. Il fait sa technique. Il dit comme t'as dit, puis la plupart des gens l'ont dit, il y a un match parfait, mais il attaquait pas. Je pense qu'il aurait pu frapper pas mal plus Lucien Bouté. Vraiment plus.
Pascal, t'as raison, Pascal a jamais été un grand cogneur et il a jamais été le plus précis des cogneurs. Donc, ça fait un gars qui se bat avec sa technique et ce soir-là, il avait une technique efficace. Il a quand même réussi à couper Lucien, il est rentré dans Lucien, il boxait beaucoup penché.
Ouais.
On voit qu'il a eu une bonne préparation, on voit qu'il était sérieux dans la tête et physiquement. Et on voit qu'il écoutait les gens alentour. C'était une équipe qu'il y avait autour de Jean-Pascal et c'était un gars qui avait alentour de Lucien Bouté, Stéphane Larouche. Selon moi, c'est ce qui a fait la différence dans ce combat-là.
Lucien, il me semble que on peut pas avoir de match numéro 2 hein, en passant. Là. Je vois pas ça. Tu vois-tu les deux gars s'affronter
encore? Faudrait que ce soit très très long. Faudrait qu'on fasse oublier aux partisans de boxe ce combat-là inégal, mais on oublie vite au Québec. Puis j'ai l'impression que si on nous disait que Lucien est complètement rétabli, qu'il a vu des psychologues puis tout, je suis sûr qu'il y aurait un engouement. Pas un aussi gros engouement, puis ils font pas 2 millions chacun. Là.
Non, puis il y aura pas autant de gens qui vont réserver l'événement en pay-per-view. Parce qu'en fin de semaine, je sais pas, j'ai pas vu les chiffres, je sais pas si toi t'as vu ça.
47 000
comment?
Au Québec. 47 000 au Québec, puis ça c'est...
47 000, tu parles de location du pay-per-view?
Ouais, puis il y a beaucoup de monde qui était 3, 4, 5 devant le pay-per-view. Là.
Ben oui, nous chez nous, on était 6 qui regardaient ça.
Mais aller à 5 de moyenne ou 6, c'est quand même 200 000, 300 000 personnes au Québec qui ont payé pour voir un combat à 11h15. Là. C'est énorme, c'est un record au Québec. C'est intéressant. Présentement, Jean-Pascal a pas de contrat, il magasine un peu une offre à gauche et à droite. Moi, j'ai le feeling que... il y a même un agent pour négocier pour lui. Là. Fait que j'ai le feeling que l'agent va voir 50 Cent, parce qu'il y a une compagnie de boxe, va voir Mike Tyson, va aller voir Gary Shaw, name it, là, n'importe qui. Puis il va revenir avec Yvon Michel, puis il va dire c'est ça qu'on a comme offre, est-ce que t'as cote? J'ai l'impression qu'au final, Yvon Michel va tout faire pour garder Jean-Pascal. Et je serais pas surpris qu'il y parvienne, contrairement à il y a un an où j'étais persuadé que Jean-Pascal s'en irait avec 50 Cent. J'ai hâte de voir la suite, contre qui il va se battre. Lui, il va se battre beaucoup, souvent, faire le max d'argent. J'ai hâte de voir. De l'autre côté, t'as Lucien Bouté qui est au Mexique présentement pour une réunion d'Interbox, sport, scène, la cage au sport. Reviendra au Québec et c'est là qu'il va entamer sa réflexion tout seul parce que là il est encore avec toutes les gens, Stéphane Larouche, Jean Bédard, etc. Et je pense qu'il va aller en Roumanie. En tout cas, on m'a dit qu'il s'en allait probablement en Roumanie et c'est là qu'il se posera deux questions. Est-ce que je veux continuer? Puis si je continue, avec qui je le fais? J'ai pas de réponse. Lucien ne l'a pas lui non plus. J'espère que s'il décide de continuer, ce sera pas avec Stéphane Larouche, mais Ben hâte de voir la suite des choses. Je suis loin d'être désillusionné comme plusieurs partisans de boxe d'ici.
Lucien, je fonde pas beaucoup d'espoir, mais peut-être un jour un combat Jean-Pascal contre Stevenson. Pourquoi pas?
Tu sais, je veux dire, tu sais, Stevenson va se battre contre Fonfara, là. C'est Fonfara, c'est un genre de poche de sable, là. Ça va avoir lieu au mois de mai.
On en prend une de temps en temps, une poche de sable, ça.
Exact, on fait un peu d'argent, puis tu sais, on fait plaisir à
au boxeur en même temps, là. Même dans Rocky, c'est... il faisait. Tu te rappelles, dans Rocky 3, il avait dit.
Un jambon, une fois de temps en temps.
Ah, oui.
C'est pas un jambon, là. Il nous mettrait KO, moi, pis toi, même si on prenait des stéroïdes, là. Mais, tu vois, ce combat-là, puis après, à l'automne, Stevenson, Kovalev, probablement, on parle de Montréal, New York ou Las Vegas, donc ça va être gros. Est-ce qu'on va pousser Pascal en sous-carte de ça, puis on aura une carte sur HBO aux États, qui va être encore deux boxeurs québécois? C'est fort possible. Pascal, va-t-il reprendre Hopkins? Il va-tu essayer d'avoir Frosch? Parce que Frosch a zéro peur de Jean-Pascal. Comme tu dis, Jean-Pascal, c'est un technicien, là. Il te mettra pas KO.
Non,
le mettras pas KO. Ça va être un combat qui va à la décision. Ça va être intéressant. C'est sûr que Luchan est celui pour qui on a le moins d'espoir et d'attente, mais j'ai hâte de voir sa réflexion. C'est pas un méchant gars, Luchan, vraiment pas. Alors, je souhaite qu'il trouve la réponse dans sa réflexion.
Hey, déjà tout pour la quatrième, mon ami DLC. Hey, la semaine prochaine, ça va être le fun, parce que quand on va se parler, je serai pas dans ma taverne en Beauce. Je vais être dans ma taverne version sud. Je suis en Floride. Va me brancher là-bas, on va se parler directement de là-bas.
T'es un salaud.
Ah, ben, ça prend.
Rien d'autre à dire. Tu vas où, en Floride?
Ben, je vais à Lauderdale, ou? Ouais, Fort Lauderdale avec la famille. On a un petit condo là-bas. Ça va être bien sympathique. Puis, en plus, il fait fret un peu ces temps-ci. Fait que c'est pas grave de décoller, d'aller se chauffer un peu les pieds dans le sable.
Ouais, quoi? C'est pas si chaud que ça en Floride.
Ben, il faisait 28 en fait, semaine passée.
Ouais, mais j'ai parlé à un journaliste qui était là hier.
Ouais, il disait quoi, lui?
C'était pas super chaud qu'il me disait, mais tu sais, j'ai dit moins 30 cycles.
Admettons, si on fait, comme tu l'as dit, si je prends 20 degrés là-bas puis moins 30 ici, je sais qu'est-ce que je choisis, c'est sûr.
Exactement.
J'oublie rien.
T'as pas de match du Canadien d'être obligé d'aller voir en Floride pour pouvoir te reposer.
Le pire, c'est que j'avais le goût d'y aller voir, aller faire un tour là-bas, mais il y en a pas, fait qu'on va faire autre chose. Parfait.
Ouais, tu vas sûrement aller voir un Panthers Blue Jackets ou quelque chose comme ça.
Ouais, un petit quelque chose de bien intéressant, c'est sûr et certain. Hey, merci beaucoup. On se revoit.
Je te laisse, je m'en vais me coucher.
Bye.
Salut, Carl.
Salut.
La taverne.
Carl.
La taverne. La taverne. La taverne.
Dans les coulisses.com.